le charbonnier de Rotterdam. Ah oui, je m'en souviens de celui-là. Il était dans le port à Monaco. C'était un charbonnier, oui. Il amenait le charbon pour l'usine à gaz. Alors nous, on s'amusait. On se prenait pour le charbonnier, on l'attendait venir. On l'attendait. On allait de l'autre côté, là-bas, des côtés du palais du prince, sur les remparts. On le voyait arriver, on savait quand il allait venir. On dit, Léo, le charbonnier, ah! On gueulait comme des ânes. On le voyait entrer dans le port. Il arrivait, il se mettait à quai, près de l'usine à gaz. Et à ce moment-là, on commençait. On était le charbonnier. Ah, tu comprends. Charbonnier. Cosette, châtain clair. Peau de banane, peau de basane. On s'embrassait entre deux. Il ne me déplaisait pas de trouer ses chastes complexes. Cosette, goût de cierge, fleur malade. Cosette, mon jardin de Dévennes. Quand je la reconstruis aujourd'hui, elle m'échappe un peu. Je n'arrive pas à me souvenir de tout. Des riens, des fièvres rapides, des hauts, des bas. Le froid aussi, quand elle me regardait de côté comme si elle voyait des choses. Cosette, c'était ma pureté aussi, ma vie cachée. Elle était celle avec qui je partais la nuit, vers le Caucase, vers les pays de mes problèmes. Quand elle mettait sa jupe noire, je la bénissais. Ça, c'était quand on était après, on était avec Cosette, avec le charbonnier de Rotterdam. Je la bénissais. Quand elle mettait les bas de sa mère, l'après-midi, dans cette maison d'ombre, aux persiennes ajourées, les jalousies, laisser filtrer un peu de cette lumière des amants, pas trop, juste pour voir avant de faire. Juste pour voir avant de faire, le soleil en lamelle, dans cette chambre où flottait un relent d'huile d'olive, que sa crasse précise fixée dans mes narines, jouait sur mon corps comme sur un vitrail. Ses bas pendaient comme des reliques de fil au-dessous de l'air bleu de son virginal. Je le voyais bleu comme le ciel après l'amour, quand les plantes sont pleines de vie, à même les carreaux rouges, parce qu'il faisait chaud, sa chair beige, prête aux pâles, que je ne pouvais lui offrir, attendait que je ne sais quelle bénédiction, et je palliais l'insuffisante promesse qu'elle était en droit d'attendre de moi par une suite de manigances de lèvres qui se faisaient tantôt pêche, tantôt pieuvre, tandis que mon index aiguisait son geste. Le soleil, toujours filtré, y jouait. Elle commençait à jouer, elle aussi, comme un nageur, sur l'eau plate du pavement. Je le touchais. Il était tiède comme le lit. Le pavement strié par le temps et humide un peu, à un seul endroit de son désordre de pucelle, dans le pré râpé de son prétend de 13 années, je cherchais la racine du mot amour, et je m'y employais longtemps. C'est là qu'elle chantait cette chanson grégorienne, qui collait comme une prière, et ses paroles, je les buvais. Des paroles comme la menthe, qui laissent un long moment le souvenir dans la bouche. Bientôt, elle avait le Christ au bout des lèvres. Depuis des années passées à la mémoire, j'ai le privilège de recréer cette Cosette. Quand je le veux, je la vois sur ma table, comme un objet miniature fidèle au millième, comme une carte. Alors, entre deux cigarettes, je la prends, je la lis, et je retrouve le champ de menthe où je m'étanche.
Benoît Misère, 1970-71, Léo, un livre que tu as mis plusieurs années à écrire.
Oui, mais j'ai mis plusieurs années, mais je ne peux pas dire que je travaillais de temps en temps 10 jours, et puis j'ai laissé tomber, quoi. Parce que j'écrivais ça pour moi. Ça me remettait en mémoire mon enfance, et mon enfance un peu arrangée, bien sûr, hein. Bon. Le roman, c'est ça, hein. C'est quelque chose de vécu, et puis qu'on arrange, quoi. Mais il y a des choses qui sont vraies, en prison, par exemple, c'est-à-dire le collège, j'ai rien inventé, mais j'ai écrit d'une façon un peu, bon. Mais, mes oncles, mon oncle Barbacchino, c'était vraiment lui. L'oncle horloger, il m'a jamais parlé comme ça, quoi, hein. Bon. C'est moi qui ai repris ça. Papa Cube, c'était mon père, mais il n'était pas comme ça, bon. La Palette, c'était le frère de mon père, c'était un type qui avait du talent, qui était un grand dessinateur. Et son âge, je crois qu'il était un peu feignant. Et puis, Stradi aussi, c'est des choses... J'avais effectivement mon oncle qui avait été violoniste, etc. Mais j'ai tout inventé là, dans la main noire. C'était avec les gosses, avec mes copains. Alors ça, c'est vrai. Il y a des tas de choses vraies, quoi. En prison, c'est le collège. Après le Charbonnier de Rotterdam, c'est toujours l'histoire de mon enfance. Arrangé, bien sûr, lyrisé, quoi, avec du style et tout ça. Enfin, c'est mon style, quoi.
Mais en fait, on imagine ton enfance, si on oublie le livre, on l'imagine très proche de ce bouquin, parce que on imagine toujours qu'il y avait chez toi une capacité de te projeter, d'inventer des situations, et puis de croire pendant le temps du jeu à cette situation et de la pousser jusqu'au bout.
Oui.
Tu as vécu ça dans ton enfance.
Oui, bien sûr, oui. J'ai inventé des tas de choses, cette fois. Je vivais une vie un peu parallèle, quoi.
C'est-à-dire qu'à partir d'un moulin à café, tu aurais pu inventer un jeu.
Ah oui, moi je conduisais des trams. Le moulin à café, c'était le frein. Et, oui, le frein, c'était à droite. Et l'autre, le truc, il y avait un escabeau avec un trou au milieu pour pouvoir le prendre. Je mettais une espèce de truc qui servait à lever le rideau de chez mon oncle. Hein. Alors je faisais le tram en faisant ton, ton, ton. Et puis alors, il y avait le frein. Alors j'imaginais la descente, la montée, l'arrêter. J'arrêtais le truc quand il fallait et tout ça. Et des fois je m'arrêtais parce que il fallait changer de tram. Alors moi j'étais là, je faisais tu. Et puis alors je prenais le truc, je prenais les billets, j'avais donné les billets aux gens. À ce moment-là, je changeais. Je devenais le type qui donnait les billets, qui prenait les sous pour faire voyager les gens, quoi.
En fait, il y avait cette capacité de transformer la réalité, de la dépasser. Puis d'aller...
Oui, absolument. Oui, mais ça, je ne me rendais pas compte. Hein. C'est la première fois qu'on me dit ça, d'ailleurs. Et t'as raison, j'ai jamais pensé à ça, c'est vrai.
Tu étais un peu d'ailleurs, quoi.
Oui.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules.
Mais la solitude.
Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant... La solitude. La solitude. désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais... le sujet. La solitude, la solitude, la solitude! Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
Dans cette certaine solitude de l'enfance, quelle était la place que tenait la musique dans ces jeux que tu inventais?
La musique, écoute, j'ai un exemple en 75. Mathieu avait 5 ans. Et on s'est trouvé avec Marie devant la maison de ma mère, qui était encore là. Il y avait une amie de ma mère, et qui m'a dit, tu te rappelles Léo? Quand tu avais l'âge de Mathieu, donc 5 ans, tu dirigeais des orchestres sur les remparts. C'est des orchestres que j'ai inventés. Et moi, la musique, je connaissais la musique du bal, comme ça, ou la musique à l'église, mais... Alors, je chantais des choses qui devaient être à moi, quoi. Et je dirigeais un orchestre que j'imaginais, avec des musiciens, tout ça, et je disais, je m'arrêtais un moment. J'avais jamais eu fait d'orchestre, d'ailleurs. Je disais à un tel aux trompettes, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors j'allais à son pupitre que j'imaginais, et je faisais, tu vois, on fait comme ça. Pa 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 pa. Pa pa. Avec ta bouche bien sur l'embouchure. Pa 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 pa. Je revenais. Et je continuais. Comme ça. Et alors cette femme m'avait dit ça, et ça, je le savais, je m'en rappelais un peu, mais là, ça m'a remis dans le coup, et je pensais que tous les gens étaient comme moi, quoi. Enfin, plus ou moins, que les gens mangeaient, que les gens allaient en vacances, que les gens travaillaient, que les gens allaient danser, et que les gens aussi pouvaient faire des choses comme ça, notamment inventer des orchestres et les diriger. Le jour où je me suis aperçu que j'avais quelque chose en plus ou en moins des autres, je me suis caché de la musique, j'ai eu honte.
Voilà. 4 un peu foireux et tu naquis de sa colique. Payez tes médicaments. Formidable, non?
C'est pris sur le vif en répétition.
Mes grands profs
ont été Beethoven, Mozart, Haydn, Berlioz, Wagner.
Un papier que tu as imprimé. Il s'agit de la deuxième vente aux enchères publiques au dernier domicile de Ludwig van Beethoven, 5 novembre 27. Partition de la 4e symphonie, 6 florins 40. Leader écossais, 1 florin. Lauréat de la messe, 3 florins, etc. Pourquoi est-ce que tu as imprimé ça?
Parce que pour faire voir, pour que les gens sachent, que je disais, si tu n'es pas Beethoven, aux musiciens, je disais, si tu n'es pas Beethoven, tu ne peux pas jouer Beethoven. Le message des grands artistes, c'est une volonté collective qui se multiplie dans la mémoire des hommes. La mort n'est qu'un fait divers. Beethoven mort, c'est toi qui le supportes, qui le coule dans tes veines. Beethoven mort, il renaît en toi, musicien. Il est par toi, sois Beethoven et joue, et c'est bien. J'avais écrit ça pour les musiciens. Et là, il y a la citation que j'ai retrouvée. Il avait dit, je n'écris pas seulement ce que j'aimerais le mieux, c'est Beethoven qui parle, mais ce dont j'ai besoin à cause de l'argent.
Et j'ai une autre chose que tu m'as, un drôle de cadeau que tu m'as fait il y a 15 ans. En fait, c'est la photocopie de l'acte de vente par Maurice Ravel du concerto pour la main gauche à Monsieur Durand et compagnie pour la somme de 50 000 francs le 21 novembre 36, c'est-à-dire un an avant la mort de Ravel.
Oui.
Pourquoi tu avais ça aussi?
Parce que je voulais que les gens sachent ça, quoi. Que les musiciens, je leur donnais ça aux musiciens. Je dis, regardez le contrat qu'a eu Ravel. Alors, c'est formidable, parce que, en conséquence, Monsieur Durand et compagnie, sont les éditeurs, sont subrogés dans tous mes droits, dit-il. Ça va être imprimé, et auront le pouvoir, à l'exclusion de tout autre, de reproduire, éditer, publier, graver, copier, imprimer, vendre et louer à leur profit partout où bon leur semblera le dit ouvrage dans telle forme et telle publication que ce soit, y compris notamment les reproductions phonographiques, cinématographiques et généralement toutes les reproductions, quelles qu'elles soient, ainsi que de le faire exécuter dans les concerts et tous établissements publics sans que moi, c'est-à-dire lui, ni personne puissions jamais les en empêcher. Messieurs Durand et compagnie auront également le droit de publier tout arrangement de cet ouvrage pour quelque instrument que ce soit et pourront aussi transmettre cette propriété en totalité ou en partie si le juge convenable à leurs intérêts. Un jour j'étais chez Durand, j'ai craché. Et alors disant, vous devrez trouver une flûte qui jouerait du pied gauche. C'est dégueulasse. Alors, d'avance, par crédit, voilà, 50 000 francs, par crédit de Memson à mon compte d'avance chez Monsieur Durand et compagnie. Parce qu'il n'a pas touché
il
ça.
Il n'a pas touché.
Il n'a pas touché ça. Lui a approuvé Maurice Ravel, il n'avait pas... Moi, j'ai la copie de ça, le truc.
Bien sûr, c'est toi qui l'as fait.
Moi, j'ai fait la copie, photocopie. Voilà, c'est un dit qui est venu quand j'étais au Palais des Congrès me donner ça, qui avait un ami qui s'occupait des droits de Ravel à la SACEM. Voilà.
Ben pendant tout ce temps-là, il se passe des choses ailleurs. 73, 74, au Chili, par exemple.
Dans ce moment historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple. Et je vous dis que j'ai la certitude que la voie que nous avons ouverte à la conscience digne de milliers et de milliers de Chiliens ne pourra être fermée définitivement. Ils ont la force pour nous soumettre. Mais les processus sociaux ne peuvent être interrompus ni par le crime, ni par la force. L'histoire est nôtre et ce sont les peuples qui la font. Travailleurs de ma patrie, je veux vous remercier pour la loyauté que vous avez toujours manifestée.
Depuis un peu plus d'une heure, l'armée affirme qu'elle attaque le palais présidentiel après avoir demandé aux carabiniers de se retirer. Cet après-midi, en tout cas, Santiago a vécu des heures dramatiques. Le président Allende s'apprêtait à parler à son pays, mais au même moment, des chasseurs ont survolé le palais. Quelques instants plus tard, son discours était devenu inaudible.
Le putsch s'est déclenché. Les avions, les chars. Salvador Allende, président de la République. Auprès de lui, ses compagnons et ses amis fidèles. Il représente la loi. Il représente aussi une expérience unique, le socialisme au Chili. Cela fait 3 ans que l'on le combat, qu'on le discute, qu'on le sabote.
Salvador Allende a mostrado un camino que es el que comienzan a recorrer todos los combatientes de la libertad y socialismo en nuestra patria.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Messieurs, da capo.
Schoenberg avait orchestré je ne sais plus combien d'opérettes, même qui n'étaient pas de lui, quoi. C'était son boulot, quoi, lui. Et il était travaillé, il était poursuivi par l'ombre de Wagner. Et comme on dit, quand une ombre vous poursuit, c'est pire que le soleil, parce qu'elle est froide, parce qu'elle est là sans se faire voir, parce qu'elle est noire. Et un jour, il a écrit le pur lunaire, avec ses techniques dodécaphoniques, c'est-à-dire les 12 tons, quoi. Les 12 demi-tons, et je sais pas, moi, c'est-à-dire que, au fond, c'est ça, quoi. Alors après, il faut pas faire autre chose. Je veux dire, il faut prendre une autre tonalité. Comme ça. Et puis là. Thank you.
as esquissé au début, c'était le principe de la transposition de ton, de demi-ton, oui. D'un schéma mélodique.
Oui.
Dans la chanson, ça s'utilise souvent de monter comme ça pour faire monter la tension dramatique.
Oui, peut-être, oui, mais ça c'est un truc d'un demi-ton et tout ça.
C'est un truc que tu utilises ?
Non, non, pas du tout.
Dans Ils ont voté, à la fin, tu montes pas d'un demi-ton ?
Peut-être,
dans une France socialiste ?
Oui, c'est ça. C'est... Non, mais ça, c'était pas moi qui avais eu l'idée de ça, c'était... Je travaillais avec un orchestrateur, un arrangeur, comme on dit, qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Jean-Michel Defaille. Je me souviens pas exactement, tu me dis, je te crois, et c'est lui qui a eu cette idée, quoi. Alors moi, j'étais d'accord.
Léo, en 1975, tu as mis ta notoriété au service de ton idée de la musique. Et ton idée de la musique, c'était toute la musique, le Palais des Congrès.
Oui. Oui, alors il y avait un producteur qui s'appelle Roland Hubert qui avait demandé ça. Il avait dû se renseigner pour voir si ça marcherait, mais quand même, il y avait, c'était pas certain, quoi. Retourner l'orchestre, chanter. Alors, on m'a dit, pourquoi retourner l'orchestre? Il dit, parce que moi, quand j'étais petit, j'allais avec ma mère au concert, voilà, quoi. Et je lui disais toujours, pourquoi le monsieur, il se retourne pas? Elle me disait, qui? Eh ben, le chef d'orchestre, là. Il se retourne pas. Pourquoi il est toujours de dos, hein? J'avais dit ça, ça me gênait. Alors j'étais obligé de me retourner, de retourner l'orchestre pour chanter, que les gens me voient chanter, quoi. C'était la moindre des choses, quoi. Alors là, ça, c'était terrible, ça. Les journalistes, ils m'ont tapé dessus, quoi. Oh là 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 là. Hey,
formidable, non?
Jean-Claude Casa de Suquet, l'oreille, avez-vous eu l'occasion de porter sur les chansons de Léo Ferré?
Je veux dire que ma première impression sur Léo, c'est un regard, si vous voulez. Quand j'ai vu Léo Ferré, quand j'ai pris conscience de son existence, j'ai pensé d'abord à Gustave Moreau. Je ne sais pas pourquoi, à cause des lions qui, en général, sont représentés sur les peintures de Gustave Moreau. Et puis, j'ai pensé à quelques, comment est-ce qu'on pourrait dire, des allumés de génie, si vous voulez, comme Paul Tortelier ou comme mon ami le peintre Quinault. Qui sont capables de, je veux dire, qui sont des extrémistes de l'affect, si j'ose dire, de l'affectif. Et j'ai eu l'occasion de l'approcher, de le connaître, et en ce qui me concerne, j'ai ressenti un homme d'une excessive sensibilité, d'un écorché vif total, en appel d'affection, mais qui d'abord rejette les gens dont il souhaite l'affection, souvent, vous savez, comme une espèce de chat qui griffe pour qu'on l'aime. Et alors, musicalement, j'ai été très tôt touché par, je dirais, son besoin absolu d'harmonie musicale, qu'on pourrait appeler classique, mais qui sont éternels, je veux dire, qui sont simplement qui font partie du domaine de la musique qu'a pu nous faire découvrir Ravel, par exemple, parce que il a eu la chance d'avoir un merveilleux arrangeur musicien qui était Jean-Michel Defaille, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai eu la chance de participer à un grand nombre de ses spectacles et à l'Alhambra notamment, je crois que c'était en 1961. Où il chantait Thank You Satan, l'affiche rouge. Alors je garde un souvenir de l'affiche rouge tout à fait ému. Vous vous souvenez de cette chanson formidable, je crois que c'est Aragon hein, qui l'a écrite. Et pour juste employer un petit terme technique, si vous voulez, il adore les septièmes majeures, il adore les retards, il adore les harmonies qui tout d'un coup éveillent une vibration émotive. Et je crois que c'est un musicien instinctif. Et qui s'était pris de passion comme un enfant de 6 ans. J'ai un neveu, moi, qui s'appelle Olivier Holt, qui voulait absolument diriger toute sa vie. Et à 6 ans, 5 ans, sans connaître la musique, il se plongeait dans des partitions en écoutant des disques et il bougeait ses bras parce que il était fasciné par l'idée de produire le son. Alors je crois que, d'une part, on a avec Léo Ferré le premier, le plus grand poète anarcho-lyrique, ou lyrico-anarchiste qu'on puisse trouver, le premier contestataire avant la lettre, c'est-à-dire que ce mot a été employé en 68, mais je crois que lui, il a été le chantre, le troubadour de la contestation, mais avant tout avec une poésie tout à fait extraordinaire qui n'a peut-être pas toujours été comprise, mais qui crie sans arrêt « Aimez-moi, même si vous avez l'impression que je vous déteste ». Verdi, qui était le plus jeune des vieux compositeurs, à 80 ans, a écrit le chef-d'œuvre des opéras bouffes qui s'appelle Falstaff, dont chaque note souligne totalement l'action. Eh bien, je crois que il a pris conscience du mot que représente une note. Et que ces mots à lui, le verbe, s'est fait alliance totale avec le verbe musical. C'est-à-dire qu'une simple harmonie, une simple note, une touche noire, une touche blanche, est une réponse, est une question, est une émotion.
En 1975, Léo Ferré proposait toute la musique au Palais des Congrès, et on a eu le plaisir de le découvrir en train de chanter, en train de diriger un grand orchestre. Vous avez suivi un petit peu ces choses-là?
Lorsqu'il a dirigé, je crois que c'était en 1975, hein, c'était l'orchestre Padeloup, si mes souvenirs sont exacts. Il y avait un grand nombre de musiciens, il avait disposé l'orchestre en triangle avec une année centrale, et lui dirigeait tel Jupiter ou Votan de haut en bas de cette allée, en chantant, en dirigeant les musiciens. Et je veux dire, c'est pas un chef d'orchestre professionnel, parce que sinon tout le monde pourrait diriger, tous ceux qui en ont envie, et c'est vrai que ça prend des années et des années de, je dirais, de kilomètres à parcourir, mais il avait une telle, il émanait de lui, hein, une telle jouissance mystique, qu'on en était de toute façon ému de voir cette façon de s'exprimer par ses gestes dans son désir de sculpter les notes.
Formidable, non?
Comment tu travailles, toi? Comment tu composes?
Moi, je compose à ma table.
Et tu écris la musique?
J'écris, oui.
Tu l'entends dans la tête?
Oh, j'écris dans la tête. C'est une histoire, ça l'entend dans la tête. C'est pas possible. On sait bien, on a la mémoire du mélange. Moi, j'entends le hautbois. Bah, si je veux, je pense au hautbois, j'ai la mémoire du hautbois. Puis la flûte et puis le cor. Et si le cor anglais, c'est le hautbois grave. Bon, ça va. Mais si je veux commencer à mélanger la flûte, le hautbois, la clarinette, j'entends plus le son. C'est pas vrai, quoi. Je dis, bon, ça sera ça. On n'entend pas la musique en soi. Parce que si on entendait la musique en soi, toute la musique en soi, tu sais ce qu'on ferait? Moi, j'écrirais pas, hein. Tous les jours, je m'écouterais moi-même.
Là, tu parles d'orchestration, je parlais de mélodie. Comment tu écris tes mélodies?
Ah, la mélodie, c'est bien au piano pour moi. Oui, la mélodie, ça vient directement, ou ça ne vient pas, hein. Bien sûr. J'ai la chance de pouvoir improviser les choses que j'aime, et quand ça va, je les garde. Quand ça va pas, je n'en parle plus, quoi.
Tu peux, là, maintenant, essayer de trouver une mélodie?
Oui, mais la mélodie, c'est facile, hein. Thank you.
et quand tu as des mots d'abord. En 72, à Olympia, Cosimo t'apporte « Ne chantez pas la mort », c'est un texte.
Oui.
Et tu vas là-dessus, toi, chercher une mélodie. Est-ce que c'est différent comme travail?
Oui, c'est différent comme travail, mais je mets le texte, puis je chante immédiatement, ou je chante pas. Si je chante pas, je fais autre chose, hein, c'est vrai. Et là, Cosimo, ça m'avait frappé tout de suite, il m'avait porté à l'aéroport. J'avais tout de suite trouvé le piano chez Osilio Barquet, j'avais fait la musique tout de suite, la chanson, parce que ça me pressait, quoi, parce que c'était fantastique, je n'ai aucune difficulté, quoi. Après, le gros travail, c'est l'orchestration, et ça, c'est parce que c'est long, quoi, parce que je suis un peu maniaque aussi.
En 75, pour des raisons de contrat, tu es muet ou réduit au silence. À ce moment-là, une femme te prête sa voix.
Pia.
On oublie tout et les baisers tombent comme des feuilles mortes. Les amants passent comme l'or dans la mémoire des westerns. Les images s'effacent tôt dans le journal que l'on t'apporte et les nouvelles te font mal jusqu'à la page des spectacles. À la une de ce matin, il y a deux loups sans queue ni tête. Ils sont partis dans un panier quelque part dans un pays doux. Où la musique du silence inquiète les hommes et les bêtes. Ce pays d'où l'on ne revient que dans la mémoire des loups. Les loups, les loups. Lorsque j'étais petit, j'avais un loup jouet. Un petit loup peluche qui dormait dans mes bras et qui me réveillait le matin vers 5 heures, chaque matin à l'heure où l'on tuait les loups. Et qui me réveillait le matin vers 5 heures, chaque matin à l'heure où l'on tuait des loups. Et qui me réveillait le matin vers 5 heures, chaque matin à l'heure où l'on tuait des loups. Je les aime, ces loups qui m'ont rendu mon loup. Je les aime, ces loups qui nous tendent. Je les aime, ces loups qui nous tendent leur vie. Je les aime, ces loups qui nous tendent la patte. Je les aime, ces loups qui nous tendent leur vie. Mais on les fait dormir au bout d'un téléphone qu'on ne décroche pas pour arrêter la mort qui vient les visiter, la cigarette aux lèvres et le rhum à la main tellement elle est bonne qui vient les visiter. La cigarette aux lèvres et le rhum à la main, tellement elle est bonne. Je les aime, ces loups qui nous tendent leur vie. Je les aime, ces loups qui nous tendent la patte. Je les aime, ces loups qui nous tendent leur vie. Je les aime, ces loups. Je les aime, ces loups qui m'ont rendu mon loup.
Léo, dans la page des faits divers, ces deux loups portaient des noms d'hommes. Et cette chanson, sans en avoir l'air, est un réquisitoire contre, sans avoir l'air du tout, contre quelque chose qui n'est pas si vieux dans notre pays.
Oui, contre la peine de mort. Oui.
Et ces loups s'appellent Bontemps et Buffet.
Oui. Et il y en a un des deux qui avait deux personnes, en plus. Alors, je me disais, bon... Ils ont été condamnés à mort par les assises, tout ça. Mais il y a tout de même le président de la République qui, jusqu'au dernier moment, pouvait
empêchés. Les graciers, quoi. À 5 heures du matin. À 5 heures moins 2. Pompidou aurait pu prendre le téléphone. C'était Pompidou. Pompidou. Il aurait pu prendre le téléphone. Et dire arrêtez. Arrêtez ça. Quelle horreur ce type. Voilà.
Sous prétexte qu'il n'a peut-être ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître.